explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'est un parcours millénaire serpentant à travers les Alpes que des troupeaux et leurs bergers ont emprunté jusque dans les années 1950. Chaque année, à la fin du printemps, d'immenses caravanes laineuses s'élançaient dans les montagnes au son des cloches et des bêlements, fuyant la chaleur des plaines pour la fraîcheur des alpages. Antoine Debac, historien et grand adepte de la marche, a eu envie en 2018 de refaire à pied ce chemin de la grande transhumance. Un trajet que depuis plus de 60 ans, personne n'avait effectué intégralement. De la plaine de la Croix en Provence jusqu'au Piémont italien, Antoine Debac a cheminé sur plus de 500 km, empruntant des voies oubliées, traversant des paysages que le passage des moutons avait façonnés. Un voyage en altitude et dans l'épaisseur du temps que l'historien raconte dans un livre intitulé « Ma transhumance », tout récemment réédité en poche chez Artaud. Cet après-midi, Antoine Debac nous emmène bivouaquer dans les alpages par les sentiers oubliés de la transhumance. Et en fin d'émission, nous continuerons à pied et à ski jusqu'au pôle sud avec l'aventurier Mathieu Tordeur qui participe ce week-end au festival en ligne La Cité des Aventuriers proposé par la Cité des Sciences et de l'Industrie. Voilà pour l'itinéraire du jour. Cette émission est réalisée par Hélène Kouyoumdjian et préparée par Claire Tesser avec à la technique Benjamin Troncin. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
J'ai dans la tête un carnaval de moutons. Jamais une marche ne m'avait donné autant matière à revisiter le paysage. L'eau, l'herbe, une vallée, un torrent sonore. Les montagnes grandissent. La route de la transhumance suit maintenant le fond des vallées. Ici, celle creusée par l'Ubaye.
C'est l'eau de la Croix, en fait. L'Ubaye se jette dans la Durance et le canal de la Durance vient irriguer la Croix. C'est ça la transhumance. C'est les moutons qui remontent les rivières, qui remontent la Durance, qui remontent l'Ubaye et qui arrivent aux sources, c'est-à-dire aux alpages où je vais arriver bientôt.
Bonjour Antoine Debac.
Bonjour.
Remonter aux sources, voilà ce que vous avez fait dans tous les sens du terme, hein, en empruntant ces anciens chemins de la transhumance.
C'est vrai que j'avais l'impression parfois d'être une sorte de saumon comme ça, qui remonte les rivières, le cours des rivières jusqu'aux sources de l'Ubaye, puisque la plupart des alpages sont vraiment centrés dans cet endroit absolument magnifique, hein, dans le Mercantour, qui est une sorte de château d'eau,
ouais.
Hein, et puis ça coule comme ça, de façon avec une grande diversité de cours d'eau aussi, jusqu'à la grande plaine de la Croix, hein, ouais. Qui est voilà cet endroit qui a été façonné par les cailloux, les caillasses de la Durance, transportés par la Durance, c'est vrai.
Alors il y a ce retour aux sources géographiques, et puis il y a aussi ce retour aux sources historiques, hein, parce que cette transhumance, c'était cette grande migration, vous parlez de respiration de la montagne, Antoine Debac, ça permettait aux moutons de fuir en fait la chaleur, les fortes chaleurs, les terres desséchées à la fin du printemps.
C'est ça, la transhumance est vraiment une sorte de grand balancement comme ça de la montagne. On y part en juin avec des troupeaux qui comportent des milliers et des milliers de moutons. Hein. Encore aujourd'hui, dans les alpages, on compte à peu près plus de 200 000 têtes ovines et puis qui redescendent ensuite à l'automne, en octobre, vers ces plaines notamment de la Croix, les grandes plaines de Provence, hein, qui sont invivables l'été, ouais. Qui sont des fours. Quand on se retrouve dans la Croix en plein été, on a véritablement l'impression d'être dans une sorte de désert minéral, ouais. et absolument invivable. Donc voilà, il y a ce grand mouvement dont on a les premières traces, et effectivement Qui sont extrêmement lointaines. On a des traces des bergeries qui remontent à 5-10 000 ans avant notre ère. Hein.
Oui, donc c'est
vraiment quelque chose qui est une sorte de respiration de la montagne qui rythme comme ça, qui donne son rythme au sud des Alpes depuis des millénaires.
Ouais. Et ce changement de terre, hein, étymologiquement transhumance, le mot est relativement récent. Hein, je l'ai appris en vous lisant, il date de 1820, mais par contre la pratique, elle, est vraiment millénaire.
Absolument, on est devant des habitudes, des rites, des manières de conduire le troupeau, hein, qui se sont évidemment fixées entre la fin du 18e et surtout le 19e siècle, hein, qui sont les grands moments où on a aussi inventé le mouton, le mérinos, hein, voilà, qui est une invention proprement dite, un croisement entre un mouton espagnol, d'où son nom, et une race bien alpine comme ça, qui est une race endurante et pédestre. C'est quelque chose qu'on invente au début du 19e siècle, là, autour d'Arles, et donc les rites, les habitudes, les décorations par exemple, hein, les sonailles. Qui orne le troupeau, qui orne les bêtes, ce sont des choses qui ne se sont pas perdues, même si évidemment l'essentiel de la transhumance s'est elle perdue dans les années 50. On ne transhume plus aujourd'hui, sauf exception, il y a une dizaine de troupeaux qui le font à pied.
Alors la transhumance effectivement continue de se faire mais par camion, mais vous le disiez, hein, avant le départ, certains préparatifs n'ont eux pas changé.
La préparation du troupeau, déjà pour la montagne, déjà le premier travail, c'est de péguer le troupeau. Ça veut dire les initiales du propriétaire sur l'arène, que ça a toujours été obligatoire depuis les années 16, même quand il faisait la route à pied. Voilà. Après, on a un sonaille, voilà. Alors, ça, c'est un peu la stéréo du berger. Parce que c'est pas la cloche, la sonaille. C'est ce provençal. Et on choisit la sonaille, puis après, on choisit la bête, qui est le coup qui correspond au collier. Ça fait tenir les bêtes ensemble, voilà. Un bon troupeau ensonaillé en montagne, surtout que comme nous, on met les brebis adultes avec les agnelles qui auront un an au mois d'octobre. Ça fait que quand il fait mauvais, qu'elles se coupent, elles entendent les sonailles. Pof, même si le berger n'est pas là, elles entendent les sonailles, elles reviennent sur le troupeau.
Jean-Pierre, un berger interviewé dans le magazine Interception en 2011. Ces sonailles, ces cloches, cet élément sonore, ça fait partie des éléments qui vous intéressent, vous, en tant qu'historien, Antoine de Bac.
Absolument, c'est une manière de, comme il était très bien dit par ce berger, hein, de reconnaître un troupeau. Hein. Aucune sonaille n'est pareille à une autre. Il y a vraiment une identité de chaque troupeau qui est marquée par les sonailles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, là aussi, a toujours été une sorte de fierté des bergers depuis le 19e siècle, avec des concours, par exemple, de sonailles, hein, lors des grandes fêtes de la transhumance, quand les bêtes, avant qu'elles ne partent sur les alpages, généralement début juin, beaucoup de villages faisaient comme ça des fêtes de la transhumance et organisaient des concours de bêtes et des concours de sonailles, comme une sorte d'orchestre en quelque sorte.
Oui, c'est ça, c'est la musique, c'est la bande originale de la transhumance. Pourquoi la transhumance a-t-elle pris fin on est à peu près dans les années 50, hein, au moment où cette tradition se perd, cette pratique se perd.
Bon, c'est une raison, je dirais, de modernisation de la vie en Provence. Hein. La Provence est une terre touristique qui est mise en valeur grandement après la guerre. Et il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Il y a d'une part une sorte de bitumisation accélérée des routes dans la Provence qui font que toute une série de ce qui était autrefois ce qu'on appelle des drails de la transhumance, hein, ces pistes assez larges comme ça, bornées par des pierres, sont généralement recouvertes par le goudron, ouais, par le bitume, pour devenir des routes. Et puis il y a un phénomène aussi de, je dirais, de densification du trafic, hein, qui fait que à partir des années 50, effectivement, et surtout à la fin du mois de juin, hein, quand ouais, commencent les vacances, eh bien voilà, les troupeaux ne peuvent plus passer sur la plupart de ces routes, parce que ça devient dangereux aussi bien pour les troupeaux eux-mêmes que pour les voitures. Donc les dernières grandes transhumances, c'est vraiment le début des années 50, entre 1951, 52, 53, on compte les dernières transhumances.
Et alors pour vous, l'historien, vous avez eu envie de reprendre ce chemin qui était un peu effacé, hein, ces drails dont vous parlez, qui sont des chemins gigantesques, qui peuvent faire 10, 20 mètres de large. Ils s'étaient estompés dans le paysage, donc il a fallu aller les retrouver pour, et là, vous renouez non seulement avec la tradition, mais aussi avec un rêve de jeunesse, parce que c'était, adolescent, votre rêve de devenir berger, vous avez suivi un autre parcours, et là, enfin, vous allez refaire, 60 ans après, personne n'avait refait ce chemin intégralement, vous vous lancez l'idée de refaire intégralement à pied ce chemin de la transhumance.
C'est d'abord une manière d'être fidèle à mon enfance, effectivement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps adolescent dans le Vercors, qui est un haut lieu de la transhumance. Hein. C'est pas cette transhumance que j'ai faite là, mais c'est un lieu où il y a énormément de moutons l'été. Et j'ai des souvenirs comme ça d'avoir à la fois croqué, comme ça, dessiné pas mal de bergers, de chiens, de moutons, et puis d'avoir observé, c'est un spectacle absolument fascinant, hein, regarder un berger avec ses deux ou trois chiens construire et guider un troupeau, réunir un troupeau, c'est quelque chose qui moi m'avait fasciné. Et donc j'ai retrouvé, il se trouve voilà, à l'occasion d'un événement un peu malheureux qui était la mort de mon père il y a une douzaine d'années, j'ai retrouvé des traces de cette vie rêvée comme ça, voilà, des dessins, des prises de notes qui remontaient à l'adolescence. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était le moment pour moi de repartir un petit peu sur ces traces de l'enfance. Et à ce moment-là, j'ai effectivement fait un petit travail d'historien dans les archives, alors qu'il a été double. D'une part, j'ai réussi à trouver un magnifique reportage. Il se trouve qu'en 1951, en juin 1951, un journaliste marseillais qui s'appelle Auguste Moyal et un photographe qui l'accompagne, Marcel Cohen, partent avec un troupeau qui monte comme ça pendant trois semaines de l'Acro jusqu'au Mercantour. Ils suivent, ils écrivent, ils photographient, et il reste de cela, qui a été publié dans le National Geographic au milieu des années 50, à peu près 600 clichés absolument magnifiques, noirs et blancs, retrouvés donc dans les archives de Marseille, et puis publiés dans un très beau livre il y a quelques années.
Ce photographe ne savait pas, au moment où il a pris ses photos, qu'il était en train de prendre les dernières photos de ce spectacle fabuleux, avec ces dizaines de milliers de moutons qui dévalent sur la montagne. Et c'est vrai que j'ai été voir par curiosité ces photos sur Internet. Hein. On peut chercher avec le nom du photographe. J'ai plus son prénom, mais son nom de famille, c'est Cohen.
Marcel Cohen. Ouais,
Marcel Cohen, C-O-E-N. Et les photos sont superbes.
C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est d'autant plus fort que Moyal, le journaliste, et Cohen, le photographe, n'avaient pas conscience de vivre ce qu'il vivait, c'est-à-dire très concrètement la dernière
transhumance, grande transhumance
de l'Acro au Mercantour.
Alors vous allez nous emmener, hein, sur ce chemin de la transhumance qu'on appelle donc la draille. Nous allons nous endrailler cet après-midi avec vous. Nous allons marcher sur les sentiers oubliés de la grande transhumance, le temps d'un bivouac en route vers les alpages, avec Antoine Debac sur France Inter.
The summertime is a-coming, and the leaves are sweetly blooming all around this mountain, all around the purple heather. Will you go?
together to Boa Mountain. She won't go. I will surely find another.
C'était Cass McCombs qui chantait Wild Mountain Times sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Avant, les troupeaux, ils couchaient sur les places du village.
Là où il y avait les fontaines.
Ouais, et les gens, le matin, quand le troupeau partait, ils se bagarraient pour ramasser le fumier, pour ramasser le migot. Et maintenant, s'ils pouvaient nous jeter des pierres, faut pas qu'on passe.
Chabard.
Bonjour.
Tu crains pas le patou là ?
Non, il est vieux. Si vous passez par la droite, ce sera plus simple, je pense.
On est dans le même état, mon vieux patou. Tous les deux un peu crevés là. Il fait chaud, hein.
Notre invité Antoine Debac, de Visan, avec un vieux chien de berger, un patou sur ses chemins de la transhumance. C'était un extrait du documentaire Sur la route des bergers de Pascal Cardeillac, produit par Z Productions. Antoine Debac, vous n'avez pas été suivi par des caméras tout au long de votre marche, hein, bien sûr. Mais à quelques moments clés de votre parcours, vous avez été rejoint par cette équipe de tournage. Et là, en l'occurrence, vous étiez avec des irréductibles bergers qui font encore une portion, une mini transhumance.
Absolument, et ça m'émeut beaucoup parce que le personnage qu'on a entendu, Alphonse Lopez, est mort peu après. Hein. C'est ce qu'on appelle un herbacier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de terre mais qui a un troupeau et qui donc passe comme ça encore aujourd'hui avec ses 900 bêtes de la Durance. Il est installé vers Ginacervi, un petit village sur la Durance, jusqu'au col d'Alos en 12-13 jours de marche. Fin juin, c'est quelque chose qui est très passionnant, je dirais, de suivre un troupeau parce que on relativise beaucoup, on est finalement peu de choses. Hein. Ouais. On suit le rythme qui est le rythme du troupeau et le rythme de la nature, puisque le troupeau s'est adapté à ce rythme-là.
Ça veut dire que on marche pas pareil quand on marche à côté d'un troupeau. Il y a un rythme, il faut s'accorder avec le troupeau.
Absolument, le mouton marche plus lentement que l'homme, hein. Il marche à peu près à 3 km/h, nous on marche plutôt à 4 km/h, et marcher plus lentement que son pas naturel, c'est quelque chose qui est très fatigant en fait. Et donc à cela s'ajoute le rythme, c'est véritablement un rythme la transhumance, c'est-à-dire que on tient compte de la chaleur, du soleil, pendant à peu près 6 heures entre... Mettons 11 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi, le troupeau chaume, s'arrête à l'ombre. Et nous aussi, les hommes qui l'accompagnent aussi. Et du coup, on arrive très tard le soir, puisqu'on fait à peu près deux moments de marche de 3-4 heures, hein, très tôt le matin et plutôt tard le soir. Et les nuits sont très courtes, en fait. Hein. Mmh. Les nuits sont 4-5 heures pour... et on rattrape au moment de cette longue sieste du chômage du troupeau.
Ouais, alors, il faut vraiment s'adapter à ce rythme. Vous évoquez aussi ce sentiment très agréable, je crois que ce sont vos mots de toute puissance. Quand on est avec ce troupeau, quand on prend un rond-point, quand on est au milieu de la circulation, tout s'arrête, tout ralentit, tout d'un coup, avec ce troupeau, on a le pouvoir de faire un peu ralentir ce monde moderne.
Disons que c'est les bêtes qui ont le pouvoir,
oui,
c'est-à-dire que les hommes suivent. Alors il y a bien sûr toute une organisation des bergers qui mènent le troupeau, qui suivent derrière pour encadrer le troupeau, hein, qui est une chose effectivement mal commode dans le monde d'aujourd'hui. Un troupeau qui prend un rond-point, c'est
pas facile.
C'est pas facile. C'est une expérience intéressante parce que voilà, il n'a pas du tout le même rythme et puis tout le monde doit effectivement se soumettre à ce rythme-là. Alors la plupart des gens le font avec bon gré. Hein. Il y a même quelque chose d'assez émouvant de voir toutes ces portières qui s'ouvrent ou ces fenêtres qui descendent, ouais, comme ça. Les enfants qui sont ravis de voir cela. Beaucoup de photos qui sont faites. Beaucoup d'encouragement. Et puis il y a aussi bon quelques pressés. Hein, et du coup c'est toujours d'ailleurs les plus pressés qui ont dont les voitures sont éraflées par les cornes des chèvres, hein, toujours.
Et dans ces cas-là, il y a constat. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
Ben voilà, on s'arrange. Oui, il y a constat forcément. Voilà. Et ça rend pas toujours facile la vie des bergers. Oui. Hein.
Il le disait d'ailleurs le berger, hein, dans l'extrait qu'on a entendu. Autrefois, on nous accueillait à bras ouverts. Aujourd'hui, on nous jette des pierres.
Oui, peut-être.
Alors, il
pas
exagère
tout à fait.
Un peu.
Voilà, on nous jette pas des pierres, mais c'est vrai que un troupeau qui traverse un village d'aujourd'hui, c'est ambivalent.
Ouais.
C'est à la fois une présence attendue, rituelle, comme un côté village en fête. Hein, et en même temps, on sent que il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui trouvent que ça sent mauvais, qui trouvent que c'est quelque chose d'un peu dégradant presque pour qui est en train de passer devant eux.
Alors
quoi.
Que ça fait partie, hein, vous le dites, ça fait partie. Le troupeau, finalement, avant même de le voir, on l'entend, on le sent, l'odeur fait partie intégrante de cette transhumance. Quand vous marchiez sur ces chemins de la transhumance, est-ce que vous vous êtes interrogé, vous, l'historien, mais aussi écrivain, sur la difficulté, justement, de retranscrire dans votre livre ces paysages, ces sensations tout au long de la transhumance?
C'était un petit peu le défi que je me suis lancé. Comment arriver à retranscrire les émotions ressenties, aussi bien face au troupeau, face à l'animal, face à un corps qui n'a plus l'habitude de cela, et puis aussi face effectivement au paysage. C'est un paysage très changeant en fait qui est difficile à transcrire. À la fois on en a des grands exemples, voilà, des grands textes littéraires qui ont rythmé et qui ont décrit cela. Il y a des choses très belles de Giono, de Marie Moron, de Fimbert. Enfin c'est vraiment quelque chose qui fait partie presque de la littérature, notamment en Provence. Et en même temps, c'est quelque chose qui est, je dirais, on est très vite, évidemment, sur le cliché. Il faut arriver à la fois à jouer avec le cliché, parce que on traverse la Provence dans ce qu'elle peut avoir de plus authentique, et en même temps, voilà, c'est aussi un pays qui a été un petit peu abîmé, hein, il faut bien le dire.
Alors vous citiez Jean Giono, et d'ailleurs il revient régulièrement dans vos pages, hein, cet auteur qui a magnifiquement décrit la transhumance et la Provence. Laissons-le nous transporter du bout de sa plume dans un paysage que vous avez traversé dans le Var, au sud des gorges du Verdon.
Maintenant, on entre dans le désert d'un haut plateau à l'altitude moyenne de 1000 mètres sur 40 km de long et 15 km de large. C'est le plan de Canjuers, comme pour la scène d'un grand théâtre sur laquelle va jouer la solitude. Les montagnes en place sur tout le pourtour de l'horizon ne vont pas bouger. Le piéton lui-même, continuant sa marche, a l'impression d'être immobile. Rien de plus corrosif pour le moderne que ce haut lieu. Le silence. Ce grand producteur de globules rouges dans tous les sens. Le silence animateur de l'âme. Le silence qui marche les dents serrées à côté de vous. Dont fait partie d'ailleurs ce tintement de clochettes. Chèvre, bélier, ville 10, froissement des plumes de l'ange, ce grondement, vent, tonnerre de l'azur sans nuages, effondrement dans de lointains soleils, ces longs abois, seuils de ferme qu'on ne voit pas et il n'y en a pas d'ailleurs, troupeaux, suintement de l'enfer, on ne sait. Sur ces vastes étendues désertes se dressent constamment les mirages de l'esprit. Alimentés de nourriture primordiale, les sens entrent en ivresse. Les grandes terreurs, les grandes espérances courent avec les ombres des nuages. Le large de ces terres enchantées vous absorbe peu à peu. Il n'y a plus que cette piste qui entraîne votre pas.
Un texte de Jean Giono, extrait du recueil intitulé Provence, publié chez Gallimard. Nous allons mettre ce texte sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac, parce qu'il est beau, hein. C'est vous qui nous l'avez conseillé, Antoine Debac. Vous êtes passé par le plan de Canjuers, qu'il décrit si bien. Vous retrouvez ces sensations près de 60 ans, 70 ans plus tard?
Oui, c'est sûr que c'est la grandeur de Giono, hein, c'est d'avoir fixé dans une sorte d'éternité comme ça quelque chose qui a été sûrement un instant de sa vie. Hein, et il est passé par là avec un troupeau. Et donc moi j'ai refait la même expérience bien des décennies plus tard. Et oui, je ne peux pas dire autre chose que Giono décrivait ce que je ressentais. Absolument, c'est tout à fait étonnant. Bon, c'est la force du style de Giono, hein. Bien sûr, on peut pas se mesurer à ça. C'était pas le but, hein. Mais quand même, il y avait dans mon idée, disons, de suivre ce chemin, non pas l'idée d'entrer en rivalité avec Giono, mais je dirais en osmose, en fusion,
ouais, c'est ça.
En fusion avec ce type de texte. Et c'est vrai que cet état de fusion, il n'y a pas mieux pour cela que de suivre un troupeau dans ce type de paysage, qui sont des paysages où on est vraiment à la fois perdu comme un tout petit être dans une immensité, et qui en même temps révèle toutes les potentialités de votre manière de sentir les choses, ouais. de ressentir la nature, la chaleur.
Et en plus, le regard de l'historien vous concernant, hein, Antoine Debac, vous écrivez: être historien, c'est surimpressionner du temps par l'imagination sur le territoire, donner sens historique à la carte en y trouvant des correspondances avec le paysage et en les interprétant dans le temps. Faire histoire, c'est impressionner du passé sur la carte. Vous avez vraiment pensé à l'épaisseur du temps quand vous traversiez ces paysages?
La marche vous confronte à ce temps traversé, cette sorte de grande traversée d'un paysage qui est en même temps une plongée dans les strates historiques. Quand vous passez près d'une bergerie que vous comprenez, voilà, en la regardant, en l'analysant, qu'il s'agit d'une bergerie qui date du XVIIIe siècle, bien sûr, cette plongée dans le temps, elle est elle est tout à fait vertigineuse. Et de la même manière, quand vous confrontez ensuite le parcours que vous avez fait à la carte, à la fois vous marchez la carte à la main, donc voilà, c'est une sorte de confrontation permanente, mais ensuite vous pouvez aller au cadastre, par exemple, et c'est très passionnant. Alors cela, pour ça, je me suis vraiment appuyé sur l'association Larouteau, hein, qui depuis 10 ans exhume comme ça ce chemin avec son directeur Patrick Fabre et qui m'a permis de retrouver comme ça sur le cadastre le passage de la draille de la transhumance.
C'est ça. Avec des fois vous perdez. Hein. C'était à ce moment-là en tout cas, parce qu'on va le dire dans la suite de l'émission. Maintenant il y a un GR qui vient de se créer et on va en dire deux mots dans la suite de l'émission. Mais au moment où vous avez fait vous cette marche en 2018, le chemin était assez incertain. Vous vous êtes paumé des fois.
Absolument. Oui, c'est vrai que c'est aussi bon, c'est ça marcher, une expérience de marcher notamment en montagne, hein, c'est une expérience qui passe aussi par la perte, ouais. Et notamment sur ce chemin, c'était presque, je dirais, la définition même de ce que je voulais faire, c'était retrouver un chemin qui n'existe plus. Donc forcément, il y a des moments où le chemin a été tellement effacé, perdu, que on se perd, on le retrouve et tout d'un coup on tombe par exemple sur une borne milière comme ça qui était ces bornes qui tous les 500 mètres à peu près bordaient, indiquaient le passage de la draille.
Nous allons continuer à suivre ces bornes qui nous indiquent le passage de la draille, suivre votre transhumance, Antoine Debac. Les verts pâturages des hauts alpages ne sont plus très loin. Nous n'allons pas tarder à y arriver. Et nous verrons ce que c'est qu'être berger aujourd'hui. Et puis on parlera de ce nouveau GR sur ce parcours de la transhumance. On respire et on s'évade, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je me défile d'actualité. Ça fait bien longtemps que j'oublie tous mes rêves. Je perdrai ma vie à la gagner. Ça, je le sais. Que le temps, c'est de l'argent. Que je passe mon temps à le perdre. Oh, oh, oh. Là, je te sens plus sûr de moi. Si on peut rêver, rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. On fait le voyage en solitaire. Ça fait bien longtemps qu'on fait plus la paix. J'ai pas de crédit pour m'épargner. Ça je le sais, que je finis sur les dents. Un sourire en l'air.
C'était Monde Meilleur, Hervé sur France Inter.
Alors, le troupeau a quitté ce matin Hamas, des Bouches-du-Rhône.
Ouais.
Et au point de vue couleur, on est passé de la végétation un peu grillée,
sèche, ouais, tout à fait,
à une végétation totalement verte. Et on sent que les bêtes ont plaisir à se retrouver dans le vert.
Ah ouais, ouais, ben, c'est clair. Puis en plus, elles connaissent bien le chemin. Ça fait des années qu'elles le prennent. Bon, je suis obligé de les arrêter parce que là, on attend que les autres aient fini de manger. Puis après, une fois qu'on a fini, là, on se trouvait leur chez elles, le parcours que je dois leur faire faire, tout, faire manger de l'herbe qu'elles aiment pas, que je leur oblige à manger. Parce que sinon, après, j'ai pas assez d'herbe. J'ai 240 hectares. Donc pour 1200 brebis, donc je dois gérer mon herbe. Et ça, si on ne le fait pas correctement, ben au mois de septembre, elles n'ont plus d'herbe. Vénus, droite, Hera, Clès. Hera, Toum.
Ça, c'est les ordres que vous donnez à, oui, à vos chiens. Hein, qui
fais le tour, Vénus.
Qui vont ramener le troupeau dans
voilà,
le chemin.
Voilà, elles vont se mettre derrière le troupeau. Et...
Stéphane, un berger interviewé pour Interception en 2011. Nous arrivons au vert pâturage des hauts alpages avec vous, Antoine Debac. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs, ce qu'on vient d'entendre là.
C'est sûr, oui, des très beaux souvenirs. Le moment de l'arrivée sur les alpages, le moment où ça commence à monter,
ouais, hein,
on sent une excitation qui est générale, c'est-à-dire les bêtes aussi hein, sentent très bien cela dans la montée. Et puis on a l'impression qu'elles se remémorent comme ça, puisque pour la plupart, elles reviennent dans le même alpage.
Ouais.
Elles se remémorent le vert, la verdure, la douceur de l'herbe. Hein,
pour elles, vous dites, c'est une sorte de second printemps, c'est-à-dire qu'elles ont connu ce qu'elles connaissent actuellement, le printemps en plaine, l'herbe a grillé, et quand elles arrivent là-haut, on est à un moment où les fleurs apparaissent, elles vivent un deuxième printemps.
Le mois de juin, la fin juin, début juillet en montagne, c'est un moment d'efflorescence
ouais,
incroyable. Et c'est vrai que les bêtes sont extrêmement avides, excitées, elles partent à toute vitesse, et d'où... La nécessité pour le berger et ses chiens de contenir son troupeau parce que manger un alpage, c'est quelque chose qui est extrêmement codifié.
Alors, oui.
Il y a trois saisons dans l'alpage en fonction de la date.
On ne mange pas tout en même temps
et on ne mange surtout pas la même herbe.
Et
on
oui,
commence par le bas et on finit par le haut. Et ce n'est pas l'herbe du mois de juin vers 2000 mètres n'est pas du tout la même que l'herbe qu'on mange en août tout en haut ou alors dans les sous-bois. Ouais. C'est une herbe qui a des qualités très différentes et ça arrive malheureusement que les bêtes tellement avides se remplissent la panse et éclatent la panse. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc les bergers,
et
effectivement,
oui,
surtout le moment où on arrive sur l'alpage, c'est un moment assez... très très excitant et en même temps un peu délicat.
Ouais, c'est ça, tout l'art du berger, le travail du berger. Alors dans le vallon du Pis, Antoine Debac, vous avez passé une journée avec un berger, Laurent Ripert, parisien d'origine, qui a trouvé sa vocation dans les alpages aux côtés de ses brebis dont il prend le plus grand soin.
Début de mamite, c'est à peine le début.
Ça vient comment une mamite?
Eh ben ça, c'est la brebis qui n'est pas à cet été.
Ah ouais?
Parce que là, c'est la montagne, elle mange riche et tout, il y a plein de fleurs et tout, donc elles ont de plus en plus de lait. Et les agneaux qui grandissent, ils mangent de plus en plus d'herbe et de moins en moins de lait. Donc, t'as toujours le warning et toujours l'attention sur les brebis, en fait. T'es toujours connecté au troupeau, quoi. Chaque instant, quand t'es en montagne comme ça, tout seul, et chaque instant est super puissant, quoi. Chaque instant est super fort, même quand il fait des orages pas possibles et tout, t'en chies un peu. Des fois, t'as un peu peur et tout, mais c'est à chaque fois du plaisir quand même, quoi. C'est bien, avance à droite. Avance à droite.
T'as l'impression de t'être trouvé, en fait.
Ah oui, complètement, ouais. Mm-hmm. Ah oui, moi, je me sens vraiment berger. Et c'est moi, quoi. Et je me verrais pas faire autre chose, quoi.
Mm-hmm.
D'ailleurs, les premières années, je faisais sans arrêt ce rêve que j'étais dans Paris avec le troupeau.
Dans Paris.
Je sais pas, je me retrouvais dans Paris en galère avec le troupeau et c'était l'enfer, quoi, parce que ça descendait dans les sous-sols, ça prenait les ascenseurs.
Un cauchemar, en fait.
Ah, c'était plus un cauchemar.
Ouais,
hein.
Ouais. Ouais.
Cauchemar de Parisien devenu berger, un nouvel extrait du documentaire sur la route des bergers. C'est Laurent Ripert, ce berger ancien parisien. C'était votre rêve, Antoine Debac, à 18 ans, de devenir berger, en rencontrant ce berger qui finalement a réalisé votre rêve d'enfance, vous regrettez ?
Je ne dirais pas que je regrette, mais c'est vrai que en le voyant vivre comme ça avec son troupeau, en voyant sa solitude aussi, hein, qui est une belle solitude, en voyant son métier, son amour de la montagne, c'est des choses qui me font toujours vraiment fantasmer. Oui, mmh. oui. Alors, je ne regrette pas la vie que je mène, bien sûr, mais oui. Et c'est sûrement pour ça que je suis reparti en montagne, souvent seul, comme ça. Alors, bien sûr, je ne fais pas un métier de montagnard, mais bon, voilà, je vis un petit peu ça par procuration. Et
vous
c'est vrai
restez,
que c'est ce qui est beau dans la transhumance, c'est toutes ces rencontres qui sont permises.
Et alors, je le disais, vous êtes parti en éclaireur, en quelque sorte, car maintenant, il existe un tout nouveau chemin de grande randonnée, le GR69, qui permet de suivre cette route de la transhumance. Il n'a pas été encore officiellement inauguré, mais les marques rouges et blanches ont déjà été tracées. Il part où? Il arrive où? Donnez-nous envie de le prendre, ce chemin, même si, en vous lisant et en vous écoutant, on a déjà envie de le prendre.
Alors, il part d'Arles, il part de, voilà, des arènes d'Arles, et d'Arles, cité du mouton, cité du mérinos. Il traverse la Croix, et il traverse la Provence, il passe à Digne, il monte à ce moment-là par le col du Bernardet, et il va traverser comme ça les grands alpages du Mercantour, passer la frontière au col de l'Arche, au col de la Maddalena pour les Italiens, et descendre sur le Val Stura vers Ponte Bernardo. C'est 520 kilomètres.
520 kilomètres. Voilà. Il faut prévoir trois bonnes semaines pour le faire en intégralité.
Absolument. Et il est inauguré, en tout cas une première part va être inaugurée le 21 mai à Valensol, sur le plateau de Valensol, au-dessus de Gréoux-les-Bains. Ce week-end-là, il se trouve qu'il y a les Assises Nationales de la Randonnée, et donc la Fédération Française de Randonnée Pédestre va inaugurer ce premier tronçon sur ce qui est le plateau de Valensol. Je dirais c'est le plus classique de la draille qui reste. C'est vraiment là où, d'une certaine manière, on est dans l'authenticité du chemin qui a été totalement préservé.
Et pour terminer, Antoine Debac, si on ne se sent pas de faire les 520 km, si on devait prendre un tronçon plus restreint, vous nous conseillez quel tronçon de ce nouveau GR69?
Je dirais que c'est vrai que ce moment de l'arrivée sur l'alpage est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut, voilà, on est dans cette excitation-là. Donc, moi, je conseillerais de faire une semaine, 10 jours de marche entre Digne et le Mercantour. Voilà, on est là vraiment sur ce qui est le nec plus ultra de la transhumance.
Merci Antoine Debac. Et moi, je conseillerais votre ouvrage. Il fait un bien fou. Ça m'a vraiment, cette semaine, j'avais besoin de votre livre pour m'oxygéner et pour partir en montagne. Il vient d'être réédité en poche chez Artaud. Il s'intitule « Ma transhumance ». Vous restez avec nous, Antoine Debac. On va continuer de marcher jusqu'au pôle sud, dans un instant, avec l'aventurier Mathieu Tordeur.
If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry, still I If I give you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lie straight face while I cry, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never thinking of myself.
C'était Vagabond avec Courtney Barnett qui chantait Reason to Believe. Et merci à Muriel Pérez qui signe la programmation musicale de cette émission.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Je suis en train de déjeuner et je vois le pôle. Je viens de hurler. Je vois le pôle. Il est à 21 km. Je pensais pas que je pourrais le voir de si loin. J'ai vu quelque chose de scintiller et puis après je vois une petite barre noire et c'est la base scientifique. Je vois le pôle. Ça fait 50 jours que je marche. Je vois le pôle. Ah là 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 là. Après tout ce temps. J'y serai demain, je vais prendre le temps.
Bonjour Mathieu Tordeur.
Bonjour.
Nous étions en janvier 2019 à 27 ans. Vous vous apprêtiez à devenir le plus jeune explorateur à rejoindre le pôle sud depuis la côte, seul, en autonomie totale et sans assistance. Une traversée particulièrement éprouvante que vous racontez dans un ouvrage récemment paru chez Robert Laffont, Le continent blanc, 51 jours seul en Antarctique, et sur laquelle, cette expérience, vous allez revenir lors du Festival des Aventuriers qui se tient en ligne ce week-end organisé par la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors un peu plus de 2 ans après cette grande expédition, quand vous entendez votre voix émue en apercevant le pôle sud, quels souvenirs vous reviennent, Mathieu Tordeur ?
Je suis toujours ému en m'entendant à 20 km du pôle réaliser que c'est la fin de cette longue expédition, parce que c'est la fin de 51 jours de marche, mais c'est aussi l'aboutissement de plusieurs années de préparation et plusieurs années d'aventure et d'expédition qui m'ont mis sur le chemin de cette expédition en solitaire en Antarctique. Donc je m'imagine bien encore l'état d'esprit dans lequel j'étais, et c'est vrai que me réentendre, me réimaginer si proche du but, c'est toujours un moment de joie et d'émotion, c'est clair.
Et Mathieu, ça ressemble à quoi le pôle sud ? Qu'est-ce qu'il y a pile au pôle sud ?
Au pôle sud, il y a une base scientifique qui s'appelle Amundsen Scott, en hommage aux premiers explorateurs du pôle sud qui l'ont atteint le pôle sud respectivement pour Scott en 1912 et Amundsen juste avant lui en 1911. Et donc cette base scientifique aujourd'hui, il y a une centaine de scientifiques américains qui y travaillent, et donc il y a plusieurs bâtiments, il y a des télescopes aussi. Et donc on y fait toute une batterie d'expériences sur le climat et l'environnement. Mais donc c'est peuplé.
Et oui, c'est peuplé. Mais vous n'avez pas eu le droit de prendre ne serait-ce qu'une douche dans cette base scientifique. Vous avez installé votre campement juste à côté.
Absolument, ouais. Moi, je suis ni un scientifique, ni un spécialiste de l'environnement. Et donc, j'étais le bienvenu sur cette base pour rencontrer les gens. Mais malheureusement, je devais rester patient pour prendre une douche et utiliser ces bâtiments. Je devais camper dans ma petite tente.
Et rester autonome, hein, parce que vous l'étiez pendant ces 51 jours de traversée. En quoi consistait votre défi ? Qu'est-ce que vous vous étiez fixé comme règle du jeu ?
Alors c'était un défi sportif. Moi, je suis parti de la côte du continent, comme vous l'avez dit. L'idée était de rallier le pôle sud en autonomie alimentaire. Donc je tirais tout ce dont j'avais besoin dans mon traîneau, la nourriture, mais aussi tout l'équipement. Et j'étais sans assistance, c'est-à-dire que je me déplaçais à la propre force de mes bras et de mes jambes. Je ne bénéficiais pas de l'assistance d'une voiture ou d'un chien de traîneau ou d'un kite. Aujourd'hui, on peut faire des grandes expéditions avec des cerfs-volants qu'on appelle des kites. Et donc l'idée, c'était d'aller sur l'axe de rotation de la Terre et de réaliser une expédition un peu à la manière de mes un peu à la manière d'Amundsen et de Scott 100 ans plus tôt.
Alors vous vous étiez beaucoup préparé, évidemment, et pourtant ça a été plus difficile que prévu. Pour quelle raison ?
L'Antarctique, c'est le continent un peu de tous les superlatifs, hein. Le continent du pôle sud, c'est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la planète. Donc forcément, quand on se dirige là-bas, et surtout en solitaire, il y a des difficultés. Moi, je m'étais préparé aux crevasses, au froid et au vent intense, et j'en ai trouvé. Mais j'ai eu une difficulté que j'avais pas imaginée, c'était les chutes de neige importantes qui étaient liées à un réchauffement assez important dans les premières semaines de mon expédition. Fin 2018, il a fait assez chaud en Antarctique de l'Ouest, là où je me trouvais, et donc il y avait beaucoup de chutes de neige, et cette difficulté a été supplémentaire aux crevasses et au vent et a compliqué ma progression.
Et d'ailleurs, les crevasses, hein, dès le début en fait, hein, dès le premier jour, vous vous faites une grosse frayeur avec une crevasse. Ça a failli tourner court, cette histoire.
C'est vrai, et c'est une erreur que j'ai faite. Le premier jour, je subis vraiment la grande montée pour monter sur la calotte polaire et je prends la mauvaise décision d'enlever mes skis parce que je ne parvenais pas je glissais vers le bas et donc en enlevant mes skis, j'ai réparti mon poids sur mes deux pieds uniquement et je suis passé au travers de ce qu'on appelle un pont de neige, une espèce de, d'accumulation de neige qui recouvre un trou, qui recouvre une crevasse. J'ai mis le pied dedans. Heureusement pour moi, je m'en suis sorti assez rapidement, mais je me suis fait peur dès le début. En tout cas, c'était une forme d'avertissement pour rester prudent sur tout le long de la route.
Et Mathieu Torder, ça nous amène au thème de la table ronde en ligne à laquelle vous participerez demain pour le festival à la Cité des Aventuriers. Le thème de cette table ronde, c'est gestion du stress et des risques en milieu hostile. Je me souviens que juste avant votre départ pour l'Antarctique, pendant une conférence de presse, quelqu'un dans la salle vous a posé une question sur le risque de mourir lors de cette expédition. Et vous avez répondu à ce moment-là, hein, vous n'étiez pas encore parti, avec une pirouette en disant que vos parents étaient dans la salle. Mais on y pense forcément avant de partir, non ? À ce risque ultime de mourir.
Alors oui, c'est vrai que ça fait partie des grandes aventures, des aventures engagées, mais je crois que la nature même de ces expéditions demande aussi une forme de préparation très pointue, et donc en se préparant avec de l'expérience, on parvient à mitiger le risque. Moi, par exemple, je suis parti sur un itinéraire qui avait déjà été parcouru par des personnes avant moi. C'était pas un itinéraire exploratoire en Antarctique, je défrichais aucune terre inconnue, même si on était assez peu à s'être baladé dans ces contrées lointaines. Mine de rien, je bénéficiais du retour d'expérience de certaines personnes qui avaient parcouru cet itinéraire. Donc pour moi, c'était un risque maîtrisé, calculé. J'avais aussi la possibilité de me faire secourir si jamais j'étais en danger. J'avais des moyens de télécommunication, comme le téléphone satellite. Donc oui, on y pense, mais je crois qu'on parvient peut-être à appréhender ce risque avec l'expérience, en s'entourant des bonnes personnes. Et puis on part pas du jour au lendemain. C'était le fruit d'une longue préparation. Et donc on l'a à l'esprit. Mais je crois que justement, cette appréhension, et ça vous aide justement à rester prudent.
Et quand vous étiez à bout de force et que vous saviez justement que vous aviez cette possibilité de déclencher un signal de détresse qu'on vienne vous chercher, est-ce qu'il y a eu la tentation à certains moments de jeter l'éponge et de dire « je n'en peux plus, je déclenche le signal » ?
La tentation, elle est forte, c'est vrai, mais d'un autre côté, moi, c'était un rêve de gosse, c'était quelque chose qui venait de loin, et donc je m'estimais privilégié et chanceux, en fait, de pouvoir faire cette expédition et de me trouver là où je me trouvais. Donc j'essayais de garder que les choses positives, et évidemment, ça allait être difficile, mais je me disais aussi que les moments compliqués, ils n'allaient pas durer une éternité, et qu'il fallait apprendre à les surmonter. Et il y avait d'ailleurs une parole de Jean-Louis Etienne, qui était le parrain de mon expédition, qui m'avait beaucoup servi. Il m'avait dit « Mathieu, remets ton rêve de Pôle Sud à la surface, c'est difficile. » Et je trouvais que c'était une belle formule justement pour se rappeler un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je préparais mon aventure depuis Paris, quand je préparais mon aventure sur toutes les expéditions précédentes. Et c'était un bon moyen de me souvenir pourquoi je faisais ça. Et ça m'aidait justement à pas appuyer sur le bouton stop et le bouton venait me chercher.
Finalement, en vous entendant, on se dit que les aventuriers sont des gens bien plus prudents qu'on ne le pense, Mathieu Torder.
Je crois que oui. Hein. Je pense qu'on n'est pas des têtes brûlées. On est tout le temps dans un calcul de risque. Ce calcul de risque, il est pas forcément. Enfin, on n'a pas la même acceptation du risque qu'on s'appelle Mathieu Torder, Mike Horn ou Jean-Louis Etienne. Je pense qu'on a chacun notre façon de composer avec le risque, mais on est tous dans un calcul. Et moi, j'aime trop la vie pour m'en remettre au hasard ou à la chance. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de construire mes aventures avec une dose d'inconnu, parce qu'il faut que ça reste une aventure. Mais évidemment, il y a des solutions de repli, des solutions de secours. C'est ma façon de procéder aujourd'hui dans mes aventures.
Merci Mathieu Torder. Je rappelle le titre de votre livre, Le Continent Blanc, aux éditions Robert Laffont. Et puis vous participerez donc au festival La Cité des Aventuriers, de la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec une table ronde en ligne, donc accessible via internet demain, sur la gestion du risque en milieu hostile. Il y a beaucoup d'autres rendez-vous à suivre en ligne tout au long du week-end autour de thèmes comme aventure et handicap, partir sur les traces d'explorateurs d'hier ou encore la découverte des plantes sauvages. Nous allons mettre un lien vers le programme du festival La Cité des Aventuriers de la Cité des Sciences sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. Merci à vous Mathieu Torder.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Pour réécouter cette émission et les épisodes précédents, il y a le podcast. Merci pour les nombreux messages que vous nous laissez sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.